Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier l'Association des archives Françoise Dolto et l'UNESCO de m'avoir invitée en tant que défenseur des enfants devant cette assemblée prestigieuse, réunie autour de la pensée d'une grande dame qui a marqué son œuvre de psychanalyste en défendant la cause des enfants auprès des parents et des institutions. Le fait que vous ayez choisi de célébrer le centenaire de la naissance de Françoise Dolto à l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie et du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme m'apparaît parfaitement en lien avec les questions de société que j'ai choisi d'évoquer devant les professionnels de l'enfance et de l'adolescence que vous êtes tous, dans la mesure où elles interfèrent avec les droits fondamentaux des enfants tels qu'ils ont été posés par la Convention internationale des droits de l'enfant, votée par les Nations unies en 1989. Les droits fondamentaux des enfants auxquels fait référence la Convention internationale des droits de l'enfant comprennent notamment le droit d'avoir une identité, le droit à vivre en famille, le droit à la meilleure santé possible, le droit à recevoir une éducation, mais aussi le droit d'être protégé contre les violences et contre l'exploitation, le droit de ne pas être enrôlé dans une guerre. À l'énoncé non exhaustif de ces droits, on comprend que l'on parle des droits de l'homme déclinés pour les enfants. Ces droits humains des enfants qui devraient s'appliquer pour tous les enfants du monde, dans quelque endroit de la planète. Mais le chemin est long pour une planète respectueuse des droits de tous ses enfants. La France, qui a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant, a mis en place en 2000 un défenseur des enfants, autorité indépendante, chargée de défendre et de promouvoir les droits des enfants dans le cadre de mandats de 6 ans non renouvelables. Dans ce cadre, je reçois des réclamations individuelles à propos desquelles les droits d'enfants n'auraient pas été respectés. Ces réclamations représentent une sorte d'observatoire des problématiques qui émergent dans la société. 2 tendances principales m'apparaissent. D'une part, les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre familial, notamment à l'occasion des séparations préparentales. Et d'autre part, les atteintes aux droits des enfants par les institutions, notamment pour les enfants étrangers, enfants isolés en France, ce que l'on appelle les mineurs étrangers isolés, ou enfants en famille dont la situation administrative est irrégulière. De même, le respect des droits des enfants porteurs de handicap reste encore un parcours du combattant pour les familles, malgré la loi de 2005. La veille législative que nous menons m'amène à rendre des avis sur tous les projets de loi qui concernent les mineurs. Actuellement, l'évolution de la justice des mineurs fait partie des sujets de préoccupation sur lesquels j'ai été amenée à rendre plusieurs avis. J'y reviendrai plus loin. Chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, je remets un rapport au président de la République. C'est l'occasion de faire des recommandations de modifications législatives, réglementaires ou de pratiques professionnelles et de mettre dans le débat public des problématiques insuffisamment prises en compte. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer tous les sujets que j'aimerais partager avec vous. J'ai donc choisi d'en développer 2, que je souhaite particulièrement porter à votre réflexion et qui auraient sans aucun doute intéressé Françoise Dolto, qui se définissait comme psychanalyste et citoyenne et qui était engagée dans un travail au sein de la cité, avec le souci de s'impliquer au niveau social et politique pour lutter contre ce qui peut, dans l'intervention ou le comportement des adultes et du collectif, perturber l'évolution de l'enfant, allant même jusqu'à écrire des propositions de réforme et amendements de la législation actuelle. Les 2 questions que je voudrais partager avec vous concernent, d'une part, le respect des droits de l'enfant par leurs parents à l'occasion de la séparation des couples, et d'autre part, le regard que les adultes portent actuellement sur les enfants qui commettent des actes de délinquance. Concernant le premier sujet qui me paraît fondamental puisqu'il concerne près de 4 millions d'enfants, la séparation des parents. Depuis les années 70, nous avons assisté à une évolution sans précédent des modes de vie familiaux, marquée par une baisse du mariage et une augmentation des unions libres et du PACS depuis sa création. Plus de 50% des naissances ont lieu hors mariage. Parallèlement, les divorces et les séparations ont également augmenté, réduisant la durée de vie des couples. Ces séparations qui concernent 4 millions d'enfants, 1 enfant sur 4 ne vit pas avec ses 2 parents, mettent en évidence la difficulté croissante pour un nombre d'enfants de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents après la séparation. Ces atteintes aux droits de l'enfant, droit fondamental de pouvoir maintenir des relations personnelles avec ses parents et donc d'être dans une continuité du lien affectif, ont des conséquences diverses sur son équilibre psychique. Le nombre croissant des contentieux familiaux portés devant les juges aux affaires familiales, 360 000 affaires par an, c'est-à-dire 65% des affaires qui sont portées devant les tribunaux de grande instance concernent la famille, concernent les enfants, montre bien les difficultés des couples à gérer leur séparation et le projet de vie de leur enfant. La judiciarisation croissante pousse l'institution judiciaire dans ses limites. Lenteur des procédures, préjudiciable à l'enfant. Insuffisante formation des juges aux affaires familiales à la prise en compte de la parole de l'enfant, telle que la loi de 2007 leur a demandé de le faire. Manque de coordination entre les différents juges, juges aux affaires familiales, juges des enfants, dans la mesure où des enfants peuvent relever à la fois de procédures devant ces deux magistrats, qui ne sont pas toujours coordonnées, ce qui peut mener parfois à des décisions paradoxales pour l'enfant. Toutes ces difficultés institutionnelles sont amplifiées dans les séparations les plus conflictuelles, où là on assiste à une escalade des conflits, dont certains atteignent un paroxysme. Délits de non-représentation, courses aux certificats médicaux, déménagements impromptus, enlèvements d'enfants. Tout ceci plaçant l'enfant dans des conflits de loyauté et mettant en difficulté tous les professionnels concernés. Le législateur a pourtant adapté considérablement le droit de la famille depuis les années 70 pour pacifier le divorce, supprimer la puissance paternelle et aller vers l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire la coparentalité. La coparentalité qui veut dire que les parents doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant leurs enfants, même après la séparation. Et ce, qu'ils aient été mariés ou non, qu'ils aient été pacsés ou qu'ils aient vécu en union libre. Or, c'est l'exercice pratique de cette coparentalité qui est à l'origine de la plupart des conflits entre parents. Car le législateur leur a demandé quelque chose de difficile après la séparation. Il leur a demandé de passer du couple conjugal au couple parental, sans pour autant que les politiques publiques n'aient accompagné cette exigence par une information, par une pédagogie. Et pourtant, c'est bien l'intérêt supérieur de l'enfant que ses parents élaborent ensemble un projet de vie pour lui, faute de quoi le juge décidera à leur place et éventuellement prendra des mesures de rétorsion. À l'égard des parents, bien sûr, mais toujours avec des conséquences sur l'enfant. Lorsqu'il y a changement de résidence de l'enfant, lorsqu'il y a suppression des droits de visite et d'hébergement pour l'un des parents, lorsqu'il y a rarement suppression de l'autorité parentale, lorsqu'il y a une peine de prison qui est infligée à l'un des parents dans des cas extrêmes, ou lorsque, pire encore, face à un conflit inextricable, le juge décide d'extraire l'enfant et de le placer. Il va donc bien falloir poursuivre le travail législatif pour amener les parents à évoluer, comme l'ont fait avec succès certains pays, vers une culture de la médiation familiale dans l'intérêt des enfants. À cet effet, j'ai donc proposé dans mon dernier rapport d'inscrire dans la loi un dispositif incitatif de médiation familiale, seule voie de pacification des conflits et de négociation entre les parents. J'ai également proposé d'affirmer quelque chose qui me paraît important et qui manquait dans notre code civil, c'est le droit de l'enfant à maintenir des relations personnelles avec ses deux parents. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons simplement que le fait que les parents doivent respecter les droits, le lien de l'enfant avec son autre parent. Or dire, parce que le droit c'est important, lorsque le législateur vote quelque chose, cela fait avancer aussi la pensée. Lorsque l'on écrira que l'enfant a le droit de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents, ce sera entendu par le juge, ce sera entendu par les parents et ce sera entendu par l'enfant. Ceci est très important, car suite aux séparations parentales, beaucoup d'enfants vivent dans des familles recomposées et voient apparaître à un moment ou à un autre des tiers, beaux-parents, nouvelles fratries qui partagent leur vie quotidienne et participent à leur éducation. À ces occasions se créent parfois, souvent, des liens affectifs qui peuvent être mis en question à tout moment par les changements de vie des adultes, ce qui pose à nouveau pour les enfants la question du maintien de ces nouveaux liens affectifs créés avec ces tiers. De même, l'augmentation du nombre d'enfants vivant à temps plein dans des familles homoparentales. Selon l'INED, il s'agit de 30 000 enfants, mais sans doute beaucoup plus dans le cadre des droits de visite et d'hébergement. Le nombre de ces enfants qui vivent dans ces nouvelles configurations familiales montre la nécessité de sécuriser pour l'enfant les liens juridiques qu'il crée avec le coparent, le deuxième parent, compagnon du père ou compagne de la mère, qui participe pleinement à son éducation. C'est pour ça que j'ai proposé de créer un statut des tiers qui partagent ou qui ont partagé la vie d'un enfant et avec lesquels des liens affectifs se sont noués. De plus en plus, l'interprétation de la Convention internationale et du Comité des droits de l'enfant nous amène à penser à ces liens affectifs qui ne sont pas forcément issus de la parenté. Il faut bien que tous ces enfants qui sont en circulation dans ces nouvelles configurations familiales se voient garantir la continuité des liens avec leurs deux parents, évidemment, prioritairement, tout en pouvant nouer sans culpabilité des liens affectifs avec des tiers qui leur sont imposés par les hasards des recompositions parentales. Et de même, on ne voit pas pourquoi, dans le cadre de ces recompositions, l'enfant, après s'être attaché à des tiers qu'il n'aurait pas forcément voulu voir entrer dans sa vie, devrait tout d'un coup ne plus les voir, parce que les parents en ont décidé ainsi. Il va bien falloir arriver à ce que les parents comprennent ce que Françoise Dolto nous a expliqué. L'enfant est un sujet à part entière, un sujet en devenir, voué à progresser s'il n'est pas entravé dans son évolution. D'où l'importance qu'elle attachait à la prévention des troubles névrotiques. C'est à ce stade que l'expérience des cliniciens doit pouvoir éclairer le débat politique. Je terminerai sur la deuxième grande question de société, qui, je pense, va être l'occasion d'un débat qui sera un tournant, sans doute, dans la pensée, dans le regard que nous porterons sur nos enfants. Il s'agit des enfants qui commettent des actes de délinquance. Je dis bien des enfants, parce que pour la Convention internationale des droits de l'enfant, on est un enfant jusqu'à 18 ans. Le rapport de la commission Varinard, qui a été chargée de faire des propositions pour réformer la justice des mineurs et qui a fait l'actualité récente, ne pouvait qu'interpeller la défenseure des enfants sur ce regard que les adultes portent actuellement sur leurs enfants, enfin sur une partie de la jeunesse. Je ne vais pas m'étendre sur les détails techniques des propositions, mais j'aimerais relever quelques points qui nécessiteraient d'être éclairés par votre pratique professionnelle. Tout d'abord, l'âge de la responsabilité pénale des enfants, que cette commission recommande de fixer à 12 ans, en considérant qu'il y aurait, dès cet âge, une présomption de discernement, sans tenir compte du fait que les processus de maturation sont très variables d'un enfant à l'autre, et que si un enfant peut avoir le discernement et donc donner son avis sur certains points qui le concernent, cette faculté de discernement n'est, semble-t-il, pas homogène et ne correspond pas forcément à une maturité suffisante pour se voir reconnaître une responsabilité pénale. Outre le fait qu'en adoptant ce seuil de la responsabilité pénale à 12 ans, la France se situerait dans la partie la plus basse des seuils fixés par de nombreux pays européens qui ont plutôt retenu 14 ou 15 ans. Je me suis interrogée sur la base de quels avis autorisés on avait pu décréter une présomption générale d'âge du discernement. Concernant l'incarcération des enfants, il nous est également proposé de mettre en prison des enfants de 12 ans ayant commis un crime, sans nous en préciser la nature. Et il nous est proposé également, ce qui concernera beaucoup plus d'enfants, d'incarcérer dès 14 ans des mineurs ayant commis un délit, je dis bien un délit, alors qu'il s'agit de 16 ans actuellement. Sur l'incarcération des enfants, il faut rappeler fermement que la Convention internationale des droits de l'enfant estime que ça ne peut être qu'une mesure exceptionnelle et pour la durée la plus courte possible. Et par ailleurs, toutes les observations de terrain montrent que son efficacité à un âge précoce est loin d'être avérée et que les modalités d'incarcération, même dans les établissements pour mineurs récents, ne sont pas du tout adaptées à des enfants de 12 ans. De plus, l'introduction d'enfants de 12 ans dans des établissements pénitentiaires où ils se trouveraient avec des mineurs récidivistes de 16 à 18 ans reviendrait à les exposer à des mineurs aguerris, pour le coup, et d'une stature physique instaurant l'inégalité des rapports. Quant aux propositions qui nous suggèrent que des enfants pourraient être condamnés à passer 4 week-ends en prison, on aimerait bien savoir comment s'organiserait la cohabitation de ces passagers du week-end, enfants scolarisés normalement en 6e, voire en CM2, je dis bien en CM2, avec des jeunes déscolarisés, des jeunes et souvent désocialisés aussi. Je crois qu'il faudrait aussi surtout rappeler que le risque suicidaire est accru en détention pour les majeurs et a fortiori pour les mineurs, comme l'a montré l'actualité récente. Au bout du compte, même si le rapport de la commission Farinard n'est qu'un rapport qui n'engage que ceux qui l'ont rédigé, l'enseignement qu'il faut en tirer, c'est que l'esprit qu'il sous-tend et qui finalement correspond bien à ce qui circule dans l'air du temps, c'est que l'on s'éloigne d'un principe fondamental qui est celui d'une justice adaptée pour les enfants, qui est l'un des piliers de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Il me semble essentiel que le projet de loi à venir sur la réforme de la justice des mineurs soit l'occasion de lancer une grande réflexion avec l'ensemble des acteurs de l'enfance et de l'adolescence sur des concepts qui engageront de façon déterminante l'avenir d'une partie de la jeunesse qu'il va bien falloir aider à s'intégrer pour en faire des acteurs constructifs de demain. Décréter que des enfants qui se mettent en infraction avec la loi pénale ne sont plus des enfants mais des mineurs ne réglera aucun des problèmes de fond qui se posent aujourd'hui pour une partie de la jeunesse, qui est entraînée dans des logiques de comportement dont les causes doivent aussi, je dis bien aussi, être recherchées dans l'organisation de notre société. Diffusion permanente d'images violentes au cinéma, à la télévision et sur Internet, accès non contrôlé à la pornographie, marketing alcoolier en direction des adolescents, banalisation de l'usage du cannabis. On aimerait surtout que des politiques publiques coordonnées soient mises en place pour protéger la jeunesse de ces dangers auxquels elle est exposée de façon permanente. Pour conclure, je voudrais vous dire que, à partir de ces nouvelles difficultés de vivre rencontrées par les enfants, les familles et les institutions, vous allez réfléchir ensemble durant 3 jours autour de la pensée de Françoise Dolto, qui reste pour moi et à la lumière de mes préoccupations de défenseur des enfants, d'une actualité percutante. Je vous remercie.